Bienvenue une fois de plus à l'Institut des Libertés. Décidément, on n'arrête pas. Et cette fois-ci, nous avons décidé de répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à nous envoyer des questions et j'ai pensé qu'il était utile que je comprenne exactement ce que vous aviez dans la tête de façon à mieux communiquer avec vous, quoi. Mais avant que je réponde à vos questions, je vais vous demander un petit service. C'est quand même... vous savez, c'est très bien qu'on ait des abonnés à notre chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que si on dépasse 100 000, d'un seul coup, ça rapporte beaucoup plus à l'Institut des Libertés sans que ça ne vous coûte rien à nous. C'est les astuces de ces YouTube, etc. Donc, si vous pouviez appuyer sur le petit bouton qui est quelque part, je crois, au début, pour vous inscrire, ça nous arrangerait bien. Voilà, c'est parce que pour l'instant, notre chaîne de télévision, elle marche avec des bouts de ficelle et tout, on s'en sort, mais enfin... Mettons que ce ne soit pas la gloire financière. Mais ce n'est pas grave. On fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça pour essayer de vous parler à vous et de vous expliquer ce qui se passe. Bon, alors maintenant, on va me poser des questions. J'attends la première question avec impatience. Et je ne les connais pas, les questions. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé mes réponses. Tout ce que je vais dire, je vais dire ce qui me passe par la tête au moment de la réponse de la question. Allez-y.
Alors, première question. Vous qui êtes un défenseur de la démocratie directe, que pensez-vous de la proposition de référendum du président Macron ?
Alors, si on revient à la Constitution de la 5e, je crois qu'il y a deux façons d'avoir un référendum. Le premier, c'est par le président. Le deuxième, c'est une histoire extraordinairement compliquée qu'a monté Sarkozy avec le Parlement, etc. Une usine à gaz incroyable, ce qui fait que le peuple ne peut pas demander le référendum. Moi, je trouve que demander son avis au peuple, c'est toujours une bonne idée. Mais alors là, sans vouloir faire de peine à personne, demander un référendum sur l'écologie... C'est vraiment demander un référendum sur le sexe des anges. La France est le pays au monde qui a, la trace écologique la plus faible en raison de son programme nucléaire, le CO2, le fameux CO2. Donc nous coller un référendum alors qu'on ferme Fessenheim, et donc on va rebrûler du gaz ou du charbon pour remplacer Fessenheim, ou on va faire tourner des éoliennes qui ne marchent pas, ou ça me paraît exactement, si vous voulez... le genre de questions qu'il ne fallait pas poser. C'est-à-dire que M. Macron, une fois de plus, nous prend pour des imbéciles. Quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est assez simple, c'est que si M. Macron voulait qu'il y ait 10% des gens qui aillent voter au référendum, il a fait le nécessaire. Quoi. Ça n'a intéressé personne. Et en plus, quand on regarde la façon dont les villes gérées par des écologistes le sont, qu'il s'agisse de Grenoble ou de Bordeaux ou d'autres villes comme ça, c'est un vrai désastre. Donc... les Français auraient sans doute aimé un référendum sur la baisse des dépenses de l'État, la fin des fraudes, par exemple, celle de Charles Pratt, ou bien l'immigration, soyons fous. Mais un référendum sur l'écologie, alors je pense pas que ça enthousiasme les gilets jaunes. Quoi. Deuxième question.
Question de Tony Deslandes. L'homme parviendra-t-il à rester libre dans un système où l'État est tout-puissant ?
Mais non ! Par définition, l'État, si vous voulez, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. C'est comme ça qu'on le définit. C'était une définition de Max Weber, qui était un gros sociologue allemand du début du XXe siècle. Il a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'il peut vous envoyer ses gendarmes si vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas. Et la seule façon d'empêcher l'État de vous martyriser, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs partout. C'est-à-dire que personne ne détienne le pouvoir de l'État. Vous avez une constitution où il y a des contre-pouvoirs partout, c'est la constitution des États-Unis, ce qui fait qu'ils ont toujours une partie de l'État qui en bloque une autre. Vous ne pouvez arrêter l'État que par l'État, en quelque sorte. Mais le drame de la constitution de la 5e, c'est que c'est une constitution purement bonapartiste. Absolument, il n'y a que l'exécutif. Le législatif est réduit à la portion congrue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Parlement, il n'est pas maître de son ordre du jour, etc. En plus, nous avons transféré toute une série de nos souverains. L'exécutif n'existe pas. L'exécutif est dominant. Le législatif est martyrisé. Et quant au judiciaire, il s'imagine que c'est lui qui est le maître. Donc, on a un autre problème en France. Donc, on a une constitution qui est complètement dysfonctionnelle, qui ne marche pas. Et nous avons transféré, pour ajouter l'insulte à l'injure, une grande partie de nos pouvoirs souverains à l'extérieur, c'est-à-dire que les décisions de la Cour des droits de l'homme ou la commission de la Cour de justice européenne s'imposent au pays, même si personne ne les a votés, si les gars qui ont pris ces décisions sont élus par personne. Donc ce n'est pas tellement l'État qui est en... l'État français qui est à l'heure actuelle en question, si vous voulez. C'est une organisation, une espèce de structure, superstructure, qui est là-haut, que personne n'a élu, et qui nous gouverne en utilisant les forces de nos États, tout en vidant les États de toute leur souveraineté. C'est une espèce de paradoxe extraordinaire. Et donc, on est dans une situation que j'ai définie il y a longtemps comme une dictature molle. C'était une phrase de Tocqueville, je crois, qui disait qu'on va vers une dictature molle. Mais je crains, on le voit à l'occasion du Covid, que cette dictature molle ne devienne une dictature dure si on commence à mettre en cause les privilèges de tous ces gens qui se sont mis à l'abri du vote populaire. Donc, c'est une autre façon de dire qu'il me semble qu'on va de plus en plus vers un monde à deux branches, ou bien de moins en moins de liberté avec un État qui devient de plus en plus omniprésent, ou bien des troubles à l'ordre social et des révolutions et des jacqueries. Mais il me semble qu'on est à un moment clé en ce moment.
Alors justement, sur le poids de l'État, on a une question de Bruno Rollet. Selon vous, l'État est obèse et coûte une fortune aux contribuables français. Que faut-il supprimer pour le dégraisser? Et pouvez-vous préciser ce qui nous coûte autant alors que nous devrions avoir un service public largement à la hauteur, vu l'impôt champion du monde que nous payons?
Alors ça aussi, c'est une très bonne question. J'ai tenté d'y répondre avec un homme que j'ai invité ici, qui était assis dans ce fauteuil, qui s'appelle Charles Pratt, qui a écrit un livre sur justement les fraudes dans l'État. Et dans ce livre, il prouve de façon tout à fait concluante qu'il y a à peu près 51 à 52 milliards de fraudes sociales. Il faut que le Français sache que les dépenses étatiques, plus les transferts sociaux, etc., c'est à peu près 800 milliards d'euros. C'est-à-dire, on doit être à 60 ou 65% du PIB, etc. Donc vous vous retrouvez avec, dans ces 800 milliards d'euros qui sont dépensés, à peu près 52 milliards d'euros qui sont payés à des gens qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas cotisé, qui n'ont aucun droit. Il y a apparemment, nous sommes 67 millions de Français, je crois, il y a 72 ou 73 millions de cartes vitales. Les fraudes au RMI sont absolument gigantesques, avec des gens qui en touchent plusieurs, ou qui les touchent à l'étranger, etc. Donc vous avez, la première des choses que devrait faire un gouvernement, c'est faire un audit des dépenses de l'État, pour savoir exactement où passe le pognon. Parce qu'il est quand même extraordinaire que nous soyons taxés comme nous le sommes, et que la police n'est pas un rond, l'armée n'est pas un rond, les écoles sont en train de devenir des fabriques à crétins, c'est pas moi qui dis ça, c'est un professeur qui a écrit un livre qui a été un best-seller. La santé, on a vu comme ça marche bien, le personnel administratif dans la santé dans les 20 dernières années a doublé, je crois que le personnel médical a été diminué de 20 ou 30%. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on embauche de plus en plus de gars qui donnent des ordres aux médecins, mais qui soignent jamais un gars, qui voit jamais un malade. On ferme des hôpitaux partout. Mais par contre, on continue à embaucher des administratifs pour gérer les relations entre l'hôpital de province, qui devrait être géré par son patron, par le chef de l'hôpital, et qui doit demander la permission à Paris pour aller faire pipi. Quoi. Donc vous vous trouvez dans une situation mais complètement folle, où la marche de l'État, plus les fraudes qui sont faites, plus les gaspillages qui ont lieu partout. Je ne sais pas, je crois qu'il y a quelque chose comme 70 ou 80 hautes autorités de ceci, grands conseils de cela. Je pensais que le président Macron allait créer une haute autorité aux chaussures de ski pour aller en Suisse, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et tous ces machins-là, chaque gouvernement depuis 40 ans a ajouté ses hautes autorités et n'en a jamais supprimé une. Donc vous devez avoir des dizaines et des dizaines de gars qui doivent avoir des faux boulots, mais avec des vraies voitures de fonction, payées, des retraites. Celui qui s'occupait des retraites, qui a été viré, là, vous savez, pendant les grandes histoires de retraites qui se sont passées en France, où il y a eu des manifestations partout, je crois que le type, il touchait 12 retraites de l'État. Il était à la retraite, mais il touchait 12 retraites de l'État. Comment, normalement, dans une démocratie, un agent public ne doit toucher qu'une seule retraite de l'État. De Gaulle, quand il est parti de l'Élysée, il n'a accepté que sa retraite de colonel. Parce que vous savez, il n'était pas vraiment général, il était ce qu'on appelait un général quart de place, c'est-à-dire qu'il allait être nommé général, mais on l'avait nommé général pour qu'il soit secrétaire d'État. Dans le gouvernement, je ne sais plus très bien, c'était... c'est pas grave. Et dans le gouvernement, oui, oui, bref. Et donc, De Gaulle, il est parti avec sa retraite de colonel. Il n'a jamais accepté rien d'autre. Donc, il a accepté une retraite. Il avait été président de la République, il avait été... Et donc, vous vous dites, il doit y avoir des gens à l'intérieur de l'État qui manquent de la moindre mesure. Monsieur Juppé, pour ne pas le nommer, quand il était Premier ministre, il a pris sa retraite d'inspecteur général des finances. Et il touche l'inspecteur général des finances alors qu'il a été politique toute sa vie. Donc il touche sa retraite. J'imagine qu'il y a une retraite de Premier ministre, de parlementaire, de maire de Bordeaux. Et M. Hollande, pareil, j'avais fait le calcul que M. Hollande devait toucher dans les 350 000 à 400 000 euros par an, avec toutes les retraites qu'il avait cumulées, sans compter la voiture, les trucs, les machins, les gardes, enfin tout ce que vous imaginez. Bah, si un homme comme moi, qui s'est décarcassé toute sa vie tout seul, qui n'a jamais rien demandé à personne, devait toucher 350 000 euros de retraite garantie par l'État français, compte tenu des taux d'intérêt actuels, il me faudrait un capital d'environ 40 millions d'euros. Donc ce que je demande simplement, c'est qu'on impose M. Hollande sur son capital de 40 millions d'euros qu'il n'a pas gagné, c'est nous qui le payons, il n'a jamais créé de la richesse. Et la même chose pour M. Juppé, et la même chose pour M. Fillon, et la même chose pour tous. Je veux dire, ce pillage de l'État par cette classe dirigeante est devenu un sport national, quoi. C'est tout à fait étrange, mais ça ne peut pas durer, c'est pas possible.
Alors, on a une question de Tarek Meftou. Comment marche ce que vous appelez le capitalisme de connivence ? Et il précise, j'ai bien compris le principe, c'est-à-dire que des gens utilisent le capitalisme pour s'enrichir, mais ne s'encombrent pas des risques qui vont avec, mais je n'ai pas compris par quels moyens.
Alors, il y a plusieurs exemples que je pourrais donner, mais je vais d'abord donner le principe de base, si vous voulez. C'est que la beauté du capitalisme, c'est que c'est un système complètement darwinien. Bon, vous avez de l'argent, vous pouvez le coller dans des obligations d'État, vous ne prenez pas de risque, et puis vous, comme ça vous êtes tranquille, vous touchez votre 30 et puis vous ne se passe rien. Mais vous pouvez avoir l'idée folle de créer un nouveau business. Si vous créez ce nouveau business et que ça marche, mettons Microsoft, vous pouvez devenir absolument immensément riche. Mais si vous avez une mauvaise idée, vous perdez tout. Et c'est votre argent. Et c'est votre droit constitutionnel de le perdre comme vous voulez. Donc moi, ayant été dans la finance et dans l'économie toute ma vie, en général, si vous voulez, pour 10 sociétés qui se créent, il y en a 7 qui échouent dans les 3 premières années. Où les gens perdent tout. 100%. Et puis il y en a 3 qui continuent, il y en a 2 qui vivotent, et il y en a une qui cartonne. Ça veut dire que il y a peu d'élus, et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Mais si vous avez un copain, par exemple au ministère de l'énergie ou je ne sais pas où, et que vous faites des éoliennes, vous allez passer un contrat avec l'État en disant « Moi, je fais des éoliennes et mon électricité va être achetée par EDF à 4 fois le prix de l'électricité produite par l'électricité nucléaire, garantie par l'État. Et si le prix de l'électricité baisse, je garde mon truc en haut. Moi, je ne perds pas. » Donc toutes les éoliennes que vous voyez en France, le pognon va à 3-4 groupes, et il n'y a zéro risque, puisque la subvention est payée par EDF, et vous retrouvez cette subvention dans votre facture de EDF. Vous n'avez qu'à la lire, vous verrez les subventions. Donc ça, c'est du capitalisme de connivence. C'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque, vous n'allez pas vous casser la figure, et vous êtes certain de gagner. Ou alors, prenons certaines banques. Vous faites des prêts invraisemblables à des gens complètement incompétents qui font n'importe quoi, des traders, ou bon. Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez. Le trader saute, mettons à la Société Générale, allez. Qui prend la claque? C'est les actionnaires de la Générale. Ils n'avaient pas demandé aux gars de faire des spéculations. Hein, vous savez. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement ne peut pas laisser tomber la Société Générale, parce que si la Société Générale saute, on a quand même une crise économique monstrueuse. Donc, on reflue la Société Générale. Et du coup, le patron de la Société Générale, lui, il souffre de rien. Il n'a pas de problème. Le cas échéant, il est promu et devient ministre des Finances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le capitalisme de connivence, c'est vous gagnez de l'argent en vous appuyant sur l'État, qui vous octroie une espèce de monopole qui vous permet de gagner de l'argent sans prendre de risques. Et ça, c'est de la corruption. Pure et simple. Parce qu'ensuite, vous retrouverez dans ces sociétés, au conseil d'administration, très souvent, les gars qui les ont réglementés quand ils étaient dans les pouvoirs publics. Vous n'imaginez pas le nombre de gars qui passent au conseil d'administration une fois qu'ils ont permis à la société en question de voler comme au coin du bois. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c'est peut-être pas illégal, mais c'est profondément immoral. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là du tout. C'est ce que disait un de mes vieux professeurs il y a très longtemps. Il disait, vous savez, le capitalisme sans faillite, c'est comme l'Église catholique sans enfer. Ça suscite peu d'enthousiasme.
Alors, deuxième question de la même personne. Je voudrais savoir ce qui se passerait dans le court terme et dans le long terme si on sortait de la zone euro. Pour moi, les effets ne seraient positifs qu'à long terme. Autrement dit, au bout de combien de temps le bénéfice pour les classes populaires serait visible et palpable ?
Ben pour l'instant, le bénéfice pour les classes populaires, il est difficile à voir. Elles se sont appauvries. Par exemple, en Italie, le revenu individuel par habitant, médian, c'est-à-dire la moitié au-dessus, a baissé de 20% depuis que l'euro existe. Donc, les Français, les Italiens, et je suis sûr que tous les auditeurs en sont convaincus, se sont appauvris depuis le début de l'euro. Vous avez qu'à regarder les gilets jaunes, etc., vous n'avez pas l'impression qu'ils soient très, très heureux ni très très contents. Donc, la première des choses, c'est vous ne dites pas que vous sortez d'une situation favorable pour aller dans une situation qui sera défavorable pour vous retrouver mieux après. Vous sortez d'une situation qui est défavorable et qui l'est de plus en plus. Donc, ça me paraît, la première des choses qu'il faut dire, c'est que l'euro ne marche pas. Il appauvrit tout le monde. Il a permis à la France de continuer à emprunter en faisant des politiques imbéciles, à des taux très bas, ce qui n'est pas bon parce qu'il faut que l'État paye son argent comme tout le monde. Il n'y a pas de raison de subventionner les dépenses de l'État dont on sait à quel point elles sont faites n'importe comment. Et surtout, elles ne sont pas pour tout le monde, je veux dire. Elles sont pour certains, mais pas pour d'autres. Donc la première des choses, c'est que le point de départ est abominable et devient de plus en plus abominable. C'est-à-dire que dire que ça va aller plus mal, vous n'en savez rien. La deuxième question, c'est comment fonctionne une économie ? Une économie fonctionne à partir d'un système extraordinairement complexe et auquel personne ne comprend rien, qui s'appelle les prix. Imaginez-vous, l'entrepreneur, pour opérer, il a besoin d'avoir des informations. Ces informations, c'est des prix. Donc il se dit, bon, ben, si je peux vendre ça à 100 euros, et si je fais mes petits calculs pour monter une usine qui me coûte 90 euros, je vais faire une marge de 10 euros, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, il a besoin de prix de marché, pas de prix administré, parce que si les prix administrés disparaissent, ben, d'un seul coup, il se rend compte que ce qu'il pensait toucher 100, il va toucher 30, alors que son truc est à 90, donc il saute. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il a besoin de prix libre. Et tous les prix viennent de deux prix. Et deux prix seulement. Les taux d'intérêt, qui régissent la relation avec le temps, c'est au travers du mécanisme d'escompte, c'est-à-dire que quelque chose qui vous rapporte... Bon, j'essaierai d'expliquer, si vous posez la question, ce que c'est que le mécanisme d'escompte, mais la réalité, c'est que vous avez le taux d'intérêt, c'est ce qui vous permet de faire rentrer le futur dans le présent et de les comparer l'un à l'autre, au travers du mécanisme. Et le taux de change qui vous permet de savoir si vous êtes plus concurrent, si vous êtes concurrentiel avec le gars de l'autre côté de la frontière ou pas, quoi. C'est les deux choses. Or, ces deux taux sont complètement faux. Aujourd'hui, ils sont manipulés par la Banque centrale. Comme ces deux taux sont faux, ça veut dire que tous les prix sont faux. Donc, l'entrepreneur de base, il ne peut pas prendre ses décisions, si vous voulez. Son système d'information, qui sont les prix, est devenu la Pravda. C'est-à-dire que ça n'est pas un système compétitif, c'est un système imposé. Vous passez d'un système où les prix bougent sans arrêt à un système où vous avez des prix fixes. Mais si vous investissez sur ces prix fixes, vous risquez de vous retrouver sautant en l'air. Et comme ça ne marche pas, maintenant, la Banque Centrale Européenne et les crétins qui nous gouvernent à Bruxelles ont décidé de nationaliser la monnaie. C'est-à-dire l'outil dans lequel sont incorporés et le taux de change et le taux d'intérêt qui est la monnaie. Comme ça ne marche pas du tout, ils sont en train de le nationaliser et d'imprimer de la monnaie comme des fous pour boucher les trous partout. Donc, pourquoi ça marchera si on y retourne? C'est qu'on retournera à une monnaie qui aura un prix de marché, qui mesurera la rentabilité et la productivité française, et ce qui nous permettra d'avoir des prix de marché pour les taux d'intérêt et les taux de change, et permettre aux entrepreneurs de reprendre leurs investissements rationnellement. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est, certes, on va en prendre plein la gueule, mais on retournera à la liberté, liberté des prix en particulier, et je n'ai jamais vu un pays s'appauvrir quand il va vers plus de liberté. J'ai vu tous les pays s'appauvrir quand ils vont vers moins de liberté. Et je crois que c'est la seule réponse qu'on peut donner à cette question, c'est, écoutez, est-ce que vous trouvez quand le mur de Berlin s'est écroulé, est-ce que c'était une mauvaise nouvelle pour le Portugais ou le Hongrois, quoi? Parce qu'ils avaient des systèmes comme ça, bloqués. Aujourd'hui, on a une espèce de système qui est ce que j'appelle une Union soviétique molle.
Alors, encore une autre question sur l'euro. Votre avis sur l'arrivée prochaine de l'euro numérique, la déclaration
de Alors, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est encore un... Les gens essayent toujours de trouver une solution qui éviterait d'avoir à prendre des décisions difficiles. Vous savez, c'est-à-dire que... Alors, l'euro numérique, ce que ça veut dire, c'est que nous aurions tous un compte, mettons à la Banque Centrale, à la BCE, et que si la BCE, dans sa grande sagesse, décidait qu'on a besoin de plus d'argent pour consommer plus, elle pourrait nous créditer directement cet argent sur notre compte, plutôt que de passer par l'intermédiaire du gouvernement qui donne une baisse des impôts, qui donne des trucs, etc. Donc c'est une tentative, dans quelque sorte, pour la Banque Centrale, de créer de l'argent à partir de rien qu'elle ferait apparaître miraculeusement dans nos comptes. Mais ce que disait Roef, qui était un économiste tout à fait compétent, qui a fait des erreurs dans sa vie, mais ça c'est pas grave, parce qu'on en a tous fait, il disait l'inflation c'est de subventionner des dépenses qui n'ont aucune rentabilité avec de l'argent qui n'existe pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus ils créeront de l'euro pour essayer de compenser la baisse de l'investissement par les entrepreneurs dont je parlais il y a 5 minutes, plus ils feront baisser, donc plus ils nous donneront d'argent gratuit, moins cet argent vaudra quelque chose. Et ça se passera sans aucun doute par l'intermédiaire du taux de change. Ce que je dis à tous mes clients, c'est l'inflation, c'est toujours une hausse de la masse monétaire. Et ça déclenche des changements de prix relatifs. Alors, en 1970, il y a eu une vague inflationniste, donc de hausse des masses monétaires très forte. Certains d'entre les auditeurs doivent s'en souvenir. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ce sont les prix de détail qui ont augmenté. Vous avez une inflation à 10, 12, 13, vous savez, une hausse des prix de détail de 10, 15% par an, c'était... Puis au début des années 2000, on nous a fait une deuxième grande zone de hausse d'inflation, de masse monétaire, et cette fois-ci, c'est les actifs qui sont montés, l'immobilier et les actions. Et là, on a commencé notre troisième inflation depuis les années 2000, et cette fois-ci, ça se passera sur les taux de change, c'est-à-dire que les pays qui n'ont pas monétisé, qui n'ont pas fait marcher leur planche à billets, ils sont tous en Asie, vont voir leur montée monnaie très fortement vis-à-vis de ceux qui ont fait marcher leur planche à billets. Je pense que l'auditeur comprendra. Si je lui dis, si la masse monétaire a doublé aux États-Unis et n'a pas doublé en Chine, il ne faut pas avoir fait de longues études pour penser que le yuan va monter vis-à-vis du dollar. Quoi. Et ce que je veux dire, ça me paraît... Donc la première inflation s'était portée sur les prix de détail, la deuxième sur le cours des actions et de l'immobilier, et je crois que la troisième se portera sur la hausse des monnaies en Asie.
Une question de Rémi Valtisperger. Que pensez-vous du Bitcoin?
Alors le Bitcoin, c'est une idée très intéressante. D'abord, la technologie qu'utilise le Bitcoin est extraordinairement prometteuse parce que ça permet de garder l'anonymat en quelque sorte. On est les banquiers centraux, on détruit l'anonymat des banques. Des banques suisses, etc., mais par l'intermédiaire du Bitcoin, vous pouvez retrouver un certain anonymat, si vous voulez, même un anonymat presque parfait. Bon, donc c'est déjà ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dans un pays où il y a des contrôles d'échange, vous ne pouvez pas sortir votre argent, vous achetez des Bitcoins, vous prenez l'avion et vous allez les rechercher de l'autre côté. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est une façon de tourner les contrôles d'échange, tout ça. Donc ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien de tourner les contrôles d'échange, mais c'est les contrôles d'échange qui sont mal. Quoi. Parce que normalement, c'est toujours le début de la dictature. Hein. Vous commencez avec les contrôles d'échange et vous terminez avec des camps de concentration. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours le même. Ce qui m'ennuie avec le Bitcoin, c'est que la monnaie, c'est un bien commun. Et en principe, si vous voulez, c'est quasiment un privilège étatique. C'est-à-dire que si vous et moi, nous avons un différend après avoir fait des affaires ensemble, c'est dans la monnaie de notre pays, en l'occurrence l'euro en ce moment. Et puis si on a un différend, on va le faire arbitrer par des tribunaux. Mais si on fait un deal en Bitcoin, et que je vais devant les tribunaux français en disant « je me suis fait rouler », le juge risque de me dire « écoutez, vous êtes gentil, mais vous avez joué au Monopoly avec des copains, vous avez perdu, c'est pas mon problème ». Donc derrière ce qui assure la valeur d'une monnaie de façon très tangible, c'est la puissance de l'État qui vous met en prison parce que vous avez fait des choses avec sa monnaie qui n'étaient pas prévues par la loi. Tandis que là, vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas la puissance de l'État, vous n'êtes pas garanti, il n'y a pas un système de justice. Donc, c'est un instrument, à mon avis, qui sert à des gens pour soit faire passer de l'argent de droite à gauche, comme ça, au travers des frontières, sans que personne soit au courant, soit qui, voyant la façon dont ces gens-là sont en train de foutre en l'air nos monnaies, se disent c'est une façon de me protéger contre l'écroulement des monnaies. Mais je voudrais faire deux remarques, là, sur le Bitcoin, qui me gênent beaucoup. La première, c'est que si vous n'avez pas d'électricité, votre Bitcoin ne vous sert à rien. Et la deuxième, si vous n'avez pas d'Internet, votre Bitcoin ne vous sert à rien. Donc il me semble qu'un petit Napoléon, c'est plutôt mieux, quoi. Oui, mais je ne suis pas un... Je comprends pourquoi il y a des Bitcoins, je comprends pourquoi les gens ont envie de s'en acheter, mais c'est un petit peu... Vous savez, quand on était petit dans la cour de récréation, on échangeait des cartes de footballeurs. Il y avait des cartes qui valaient très cher parce qu'il y en avait très peu et d'autres qui valaient pas cher du tout. Pour moi, c'est un petit peu des cartes dans la cour de récréation.
Justement, sur la valeur des monnaies, sur la création monétaire, on a beaucoup de questions sur l'étalon or. Est-ce que vous pensez que l'étalon or est possible, enfin le retour à l'étalon or est possible ou souhaitable?
Alors, l'étalon or, c'est une bonne question. J'avais posé la question, imaginez-vous, à Milton Friedman, parce que j'ai été assez proche de Milton Friedman pendant longtemps. Qui était un homme remarquable. Donc, si vous voulez, j'aimerais bien que les gens ne me disent pas trop de mal de Milton Friedman, parce que c'était d'abord un puissant génie, et ensuite un homme très bon, si que ça paraisse, aussi curieux que ça paraisse, mais enfin, et très drôle, ce qui est encore plus important. Et il m'avait dit, pourquoi on ne fait pas pourquoi on ne retourne pas à l'étalon or? Il m'avait dit, parce qu'on peut faire mieux. Et je m'étais dit, tiens, bon, c'est une bonne réponse. Et en faire mieux, c'était donc les banques centrales compétentes, etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont tous en train de faire n'importe quoi. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les trésors locaux, enfin les ministères des finances locaux, ont pris le contrôle des banques centrales, et que maintenant on imprime de l'argent pour subventionner des dépenses qui sont complètement insubventionnables. Je vous donne un exemple idiot, mais enfin, la France a un PIB, je crois, qui est 1% du PIB mondial, et fait 15% des dépenses sociales du monde. Bon, il y a un loup. Je veux dire, je vois pas très bien comment on reste compétitif avec ce coup-là, quoi. Donc, l'idée de Milton Friedman, qui, comme toujours, est extraordinairement brillante, c'était de dire, ce qu'il faut, c'est virer tous les banquiers centraux, virer tous les économistes, et remplacer tout ça par un ordinateur que personne ne peut changer, et qui fait monter la masse monétaire de 3% par an. Point barre. La base monétaire, c'est-à-dire la pointe de la pyramide inversée qu'est le crédit. Et c'est exactement l'idée du Bitcoin. C'est-à-dire que Milton Friedman avait dit, ce qu'il faut, c'est faire un Bitcoin, mais garanti par l'État, celui-là, garanti par un ordinateur auquel personne ne peut toucher, et qui montera de 3% par an. Comme ça, le prix de l'argent sera à son vrai coût. À mon avis, dans le futur, on ira soit vers le système Bitcoin 3% par an garanti par l'État, soit retour à l'étalon or, parce que les banquiers centraux ont prouvé leur totale incompétence et corruption. Ce que je veux dire, c'est... Comme disait Milton Friedman, c'est on peut faire mieux, pour l'instant, ils ont prouvé qu'on pouvait surtout faire moins bien.
Une question de Sylvain Cheng sur la dette. En cas de défaut de paiement de la dette par l'État français, que se passera-t-il, pardon, pour notre argent concrètement?
Alors, en principe, si vous voulez, un État ne fait jamais défaut sur sa dette. Il continue, parce que, dans la mesure où il contrôle la Banque centrale, hein, parce qu'il peut toujours imprimer. Mais évidemment, si vous êtes dans un étalon or, à ce moment-là, ben, vous êtes mal barré, parce que là, vous ne pouvez pas imprimer, parce que vous pouvez tout faire avec une Banque centrale, mais vous ne pouvez pas imprimer de l'or. Hein. Ce qui se passe, ben, c'est que la valeur de vos actifs garantis par l'État va baisser à due concurrence de la faillite, quoi. En 1797, je crois, il y a eu la dernière faillite de l'État français, banqueroute, qui était la faillite des deux tiers. C'est-à-dire que vous étiez là, un bon bourgeois français en 1797, l'État français, vous avez émis des papiers et puis vous l'avez acheté. Il y avait le grand livre de la dette, vous savez, où tous les Français qui avaient prêté de l'argent à l'État étaient inscrits. Donc ça s'appelait le grand livre de la dette, c'était. Ben, tous ceux qui avaient prêté de l'argent à l'État français ont perdu les deux tiers, et on leur a dit, sur le tiers qui reste, on vous remboursera jamais le capital, et on va vous payer, si je me souviens, c'est exact, c'était 4%, je crois, à l'infini, maintenant 4% jusqu'à. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu les deux tiers de leur fric, et qu'ils n'ont jamais été remboursés, mais qu'ils ont touché 4% jusqu'à la fin des temps, quoi, c'est ça. Donc, ben, ce qui se passe, c'est que ben, ceux qui ont prêté de l'argent à l'État se retrouvent ruinés. Vous avez voulu voir ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30 ou après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bah oui, c'est pour ça que ce que je dis aux gens aujourd'hui, hein, dans le problème, dans les questions de placement, c'est si vous avez de l'argent épargné, mettez-les dans des endroits où l'État n'intervient pas. C'est-à-dire, les gens rigolent, je mentionne toujours Air Liquide, vous savez, qui est une belle société industrielle française et tout ça, qui a 150 ans, ben. L'Air Liquide n'a rien à voir avec l'État français. L'Oréal n'a rien à voir avec l'État français. LVMH n'a rien à voir avec l'État français. Donc vous achetez ces trucs-là, ça baissera s'il y a un krach, mais ça remontera derrière. Parce que si vous achetez une obligation française qu'on ne vous rembourse pas, ce qui est arrivé à la Grèce il y a quelques années, ben vous aurez perdu 100% de votre truc et vous le reverrez jamais. Donc le risque aujourd'hui, ça n'est pas la volatilité de l'actif que vous avez qui monte et qui baisse tous les jours en bourse. Les obligations françaises sont très stables puisqu'elles sont achetées par la Banque centrale, il n'y a pas de prix, donc tout va bien, elles ne bougent pas, donc c'est très stable, vous vous sentez tranquille. Mais en réalité, si vous achetez, ce qu'il faut, c'est avoir des trucs volatiles parce que le risque est de jamais revoir votre fric. Moi, je définis le risque comme jamais revoir mon pognon, pas la volatilité de l'action, je m'en fous ça. Donc, prenez le risque de la volatilité si vous avez une épargne en France. Achetez-vous, j'ai fait une liste de 10 valeurs, je crois qu'il doit traîner sur le site quelque part, de 10 valeurs qui n'ont rien à voir avec l'État et qui. Bon, normalement, font à peu près 2% de plus que la Bourse de Paris année après année, quoi.
Justement, on a une question qui est tout à fait en rapport avec ce que vous venez de dire de Sébastien Auro, O'Haraud. Avec vos connaissances d'aujourd'hui, si vous pouviez repartir de zéro à l'âge de 20 ans, vers quoi vous tourneriez-vous pour vous construire un patrimoine et comment est-ce que vous vous y prendriez?
Alors là, c'est une question. C'est une question qui est difficile parce que c'est sous-estimer le rôle du hasard dans la vie. Je veux dire par là, quand on regarde ma carrière, j'explique que il y a 20 ans, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais tout compris, j'étais parti là. C'est du pipeau. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais là à un moment où ça a bougé, je me suis dit, tiens, ça bouge et je vais faire ça. Donc, grosso modo, l'idée que vous savez à 20 ans ce que vous allez faire à 77, moi je pensais à jouer au tennis, hein, courir derrière un ballon de rugby, et puis voilà, c'était à peu près les trucs qui m'intéressaient dans la vie à l'époque. Donc, la première des questions, c'est. La première réponse à votre question, c'est il faut rester extraordinairement flexible. La deuxième réponse, c'est pour vous constituer un patrimoine, il y a deux options, hein. Ou vous avez un patron, ou vous avez des clients. Il n'y a rien entre les deux. Et donc, si vous allez dans le scénario patron, vous serez bien payé, vous, si vous êtes un bon travailleur et tout, mais vous constituez pas un patrimoine, vous pouvez l'oublier. Parce que vous serez taxé, vous serez. Bref. Il faut être dans la branche, j'ai des clients. c'est-à-dire prendre des risques. Et si vous prenez des risques, il faut prendre des risques pour rendre service à vos clients. C'est-à-dire, ce que je me tue à dire aux gens, c'est qu'il y a bien de gens, beaucoup de gens me demandent comment on fait pour gagner de l'argent. Et je leur dis, c'est pas difficile, il faut pas y penser. Si vous cherchez à gagner de l'argent, vous n'en gagnerez jamais. Vous allez voir des gens, vous analysez ce qu'ils font, et vous dites, ce gars-là a besoin de ça. Par exemple, moi j'ai eu l'idée la plus stupide quand j'avais 30 ans. J'ai travaillé dans une banque pendant 3 ans dans les marchés financiers. Et ensuite, j'ai créé une boîte pour aller expliquer aux banques qu'elles devaient faire l'argent de leurs clients. Mais tout le monde me dit, alors ça c'est une idée, mais alors complètement stupide, parce qu'en principe, elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais je leur disais, non, j'ai travaillé dedans pendant 3 ans, ils sont nuls, ils savent rien. Et ça a très bien marché. Donc la base de la réussite, c'est de trouver des gens à qui vous allez rendre service et qui vont vous payer, mais pas d'arriver avec un produit tout fait sans avoir compris ce que voulait le client, etc. Donc c'est la recherche, c'est la recherche du service que vous rendez qui est important. C'est-à-dire vous essayez de vous analyser et vous dire à quoi je suis bon. Et si vous trouvez ce à quoi vous êtes bon et que les gens en ont besoin, à ce moment-là vous allez l'offrir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point les relations client-fournisseurs, en quelque sorte, sont agréables. Si vous ne le roulez pas, voyez, je veux dire, si vous délivrez ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que autant avoir un patron, c'est pénible, autant avoir des clients, c'est agréable. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans ce métier. Et là, j'ai été invité à parler dans une conférence par Zoom là, à New York, par un gars que je connais depuis 50 ans et qui est mon client. Quoi. Donc, ça, on développe des relations d'amitié avec ses clients extraordinaires parce qu'ils ont compris qu'on cherchait à leur rendre service. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la volonté de rendre service, d'être utile en quelque sorte. Il faut être utile, voilà. Mais ça, c'est... chacun d'entre nous est différent. Hein.
Une autre question de Lionel Lomberger. Que conseillerez-vous à un entrepreneur indépendant qui veut s'expatrier à l'étranger pour fuir l'enfer fiscal et les mesures de confinement de l'État français?
Ça fait un petit moment... Ça fait un petit moment que je dis à tous les jeunes qui m'écoutent, écoutez, à partir de maintenant, ça se passe en Asie. Quand même. Et les Français ont cet avantage, souvent ils sont très bien formés. Quand je suis arrivé à Hong Kong en 2000, j'avais passé 20 ans, 25 ans à Londres avant, il y avait 5000 Français à Londres, à Hong Kong. Quand je suis parti 10 ou 15 ans plus tard, il y en avait 25 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de Français que de Britanniques à Hong Kong. Ils sont tous des entrepreneurs. C'est-à-dire, ce à quoi j'assiste aujourd'hui, ce qui me désole, c'est que vous allez en Californie, dans la Silicon Valley, c'est plein de Gaulois. Vous allez en Floride, il n'y a que des Gaulois. Vous allez à New York, il n'y a que des Gaulois. Vous allez à Hong Kong, il n'y a que des Gaulois. La France, depuis 15 ans, 20 ans, à cause de cet enfer fiscal que vous avez évoqué, exporte tous ces entrepreneurs. Et c'est pas une nouveauté historique, parce que si vous regardez, la révocation de l'édit de Nantes, c'était de virer tous les protestants qui étaient entrepreneurs. Ensuite, on a viré toute la classe marchande, dirigeante, et même les nobles pendant la Révolution. Ensuite, on a viré toutes les écoles pour l'époque du petit porc-combe, puis on a viré tous les juifs en 45. Donc, une fois en 40... Une fois tous les 40 ou 50 ans, l'appareil d'État commence à ressentir la concurrence de ces gens qui sont entrepreneurs, dédiés, qui se donnent du mal, qui sont indépendants financièrement, et les virent. Donc, encore une fois, si vous voulez, le principal ennemi de la prospérité de la France, c'est son État, parce que dès que des gens sont capables de créer de la prospérité, on les vire. C'est remarquable.
Encore une question pour un conseil de Julien Rieux. Qu'est-ce que vous conseillerez à un couple avec deux enfants, travaillant et considéré dans la classe moyenne avec un revenu de 3 500 euros, en termes d'épargne et de constitution de retraite?
Alors, ce que je dis, là aussi j'ai bien réfléchi parce que je suis passé par toutes ces étapes, si vous voulez. Dans ma famille, j'étais d'une famille d'officiers, comme disait ma mère en riant. On parlait jamais d'argent parce qu'on n'en avait pas. Donc, c'était pas la peine d'en parler. Dans une famille d'officiers, il n'y a pas un rond, ça va sans dire. Les officiers ne sont pas bien payés. Hein. Et donc, une fois que j'ai commencé à travailler, la première des choses que j'ai faites, je vous donne mon expérience personnelle, la façon dont j'ai réagi à exactement ce problème. La première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai souscrit à une assurance d'essai. C'est-à-dire que j'avais 4 enfants, et donc je me disais, bon, ben, si moi j'arrête de travailler, ben, ça va être difficile, enfin si je claque, quoi, ça va être difficile. Donc j'ai souscrit une assurance d'essai. C'est une assurance qui n'est pas très chère, quand vous avez 30, 35, 40 ans, que vous prenez auprès d'une compagnie d'assurance, et qui vous paye une très grosse somme si vous claquez. Ce qui permet donc à votre veuve à ce moment-là d'aller jusqu'à ce que les enfants soient... élevé, etc., à peu près, enfin, moi, ce que je veux dire, c'était... Donc, j'avais pris, première chose que j'avais fait. Puis, la deuxième chose que j'avais fait, quand j'avais commencé à gagner un peu plus d'argent, c'est que je m'étais acheté la maison dans laquelle je vivais à Londres. En empruntant, etc., bon, tant bien, c'était la deuxième chose que j'avais fait. Et la troisième, une fois que j'avais fait ces deux choses-là, c'était de commencer à me constituer une épargne financière. Et là, il faut, si j'ose dire, suivre les conseils de l'Institut des Libertés. Et si vous êtes, si vous êtes dans une perspective longue et que vous achetez des actions de très bonne qualité, dont vous comprenez ce qu'ils font, etc., le fait que ça monte ou ça baisse chaque jour n'a aucune importance. Moi, j'ai toute mon épargne aujourd'hui dans 3 fonds qui sont des fonds gérés par la boîte dont je suis le président, qui s'appelle GAFCAL, qui sont des fonds qui sont de Dublin, que tout le monde peut acheter à Dublin, etc. C'est géré par GAFCAL à Hong Kong. Bon, c'est à Dublin, c'est passeport européen. Il y en a un qui fait des obligations et des actions asiatiques. Le deuxième qui fait les grandes actions mondiales. Et le troisième qui fait des obligations chinoises. Bon. Ben, j'ai mis un tiers, un tiers, un tiers, et je les regarde jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne les regarde jamais parce que, bon, je mets du fric de temps en temps dedans, quand je peux, mais je ne les regarde jamais. Donc, le pire qui peut arriver à quelqu'un qui veut se constituer une épargne à long terme, c'est de prendre une optique à court terme. Je vais vendre, je vais acheter, je vais gagner de l'argent et tout. Rien du tout. Vous gagnez beaucoup plus d'argent avec vos fesses qu'avec votre cervelle dans ce métier. Donc, vous achetez des trucs de bonne qualité, et tant que ça reste de bonne qualité, vous restez dessus. Si ça commence à vous décevoir, vous le virez. Donc, la chose la plus importante, c'est que vous ne devez pas vendre ce qui est monté, vous devez vendre ce qui a baissé. Parce que si vous vendez ce qui a monté, vous faites comme un entrepreneur qui virerait tous les gars qui travaillent bien chez lui et qui garde tous les cancres. Au bout de 20 ans, il est en faillite. Vous devez virer vos mauvais choix et garder les bons choix. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que le gars se dit « Ouh, mon titre a doublé, je le vends ». Rien du tout, il va peut-être multiplier par 20 derrière. Mon titre a baissé de 50%, je ne peux pas le vendre, il est trop bon marché. Ben, il va peut-être aller à zéro. Donc, il faut avoir beaucoup de discipline et ne pas considérer le temps dans vos choix. Et, dernier truc, si vous voulez, il est bon si vous pouvez garder à peu près 6 à 9 mois de cash pour votre vie de tous les jours. Si par hasard vous perdez votre boulot, etc., que vous ayez 6 à 9 mois pour vous retourner. Quoi.
On a une question sur la propriété privée de John Bird, qui est une sorte de cas qui vous pose. Imaginons Britney à 20 ans, son grand-père a acheté un bien qui valait 50 000 euros en 1960. Maintenant, il en vaut, disons, 1 million en caricaturant. Mm-hmm. Britney gagne, comme la moyenne des Français, 1 600 euros par mois. Comment va-t-elle faire si elle veut conserver le bien de son grand-père? Imaginons en plus que les taxes foncières avec l'inflation vont prendre 60%, mais que le salaire de Britney, lui, ne change pas. Est-ce que l'État ne va pas récupérer tout l'immobilier, c'est-à-dire l'ensemble des économies de 2 ou 3 générations, si on a une hyperinflation?
Ah mais, surtout que les taxes suivront l'inflation, mais pas la fortune de Britney, si j'ose dire. C'est pour ça que je dis, quelque part... L'immobilier, c'est très très bien l'immobilier, mais ça prend pas le train pour Bruxelles. Par là, je veux dire que il est à Paris, votre immobilier, ou il est à Bordeaux, ou il est à Toulouse, dans des endroits où ça vaut quelque chose. Et si d'un seul coup le gouvernement décide que ben il a plus d'argent et qu'il va taxer votre immobilier, ce qu'il a commencé à faire avec le changement de l'impôt sur la fortune, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il commence à taxer l'immobilier, ben, un jour ils peuvent vous prendre 100% de votre fric, et à ce moment-là l'immobilier ne vaut plus rien et vous ne pouvez pas le vendre. Il n'y a plus de marché. Donc l'immobilier, moi je considère qu'il faut avoir de l'immobilier pour se loger soi personnellement, si vous voulez. Et si vous voulez mettre de l'argent dans de l'immobilier de location, etc., je ne le ferai pas en France en ce moment. Je le ferai, je ne sais pas où, à Singapour, à Hong Kong. Je mettrai de l'argent dans des sociétés immobilières là-bas, mais en France aujourd'hui, non, parce que je sais que l'étape suivante, ça va être de bloquer les loyers, de...
Une question de la même personne sur la déflation. En cas de déflation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la bourse, au niveau de l'immobilier, au niveau des salaires? Qu'est-ce qui est le plus sûr?
Alors la déflation, c'est quelque chose d'assez curieux, donc c'est l'inverse de l'inflation, ça suppose qu'il y a eu une baisse de la masse monétaire. Et ça s'est produit dans les années 30, et quasiment tout le 19e a été déflationniste. C'est-à-dire que les prix aussi. Vous regardez par exemple de 1800 à 1900, je crois, si mes souvenirs sont exacts, mais ça doit être à peu près juste, la production industrielle en Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'acier, etc., à l'époque le charbon, a multiplié par 7. En 100 ans. Et les prix ont baissé de moitié. Donc vous avez beaucoup. Le capitalisme, à cause des gains de productivité, est naturellement déflationniste. L'État est naturellement inflationniste. Le capitalisme, lui, parce que le but de tout bon chef d'entreprise qui est bon, c'est de baisser ses prix pour faire brer ses concurrents. Quoi. C'est la base. Quoi. Donc le capitalisme est naturellement déflationniste. Et à ce moment-là, ce qui se passe, et c'est très compréhensible, c'est que vous avez des biens, mais là je m'excuse, je vais employer des termes économiques, ce que j'essaye d'éviter ben, au maximum, mais qui sont élastiques par rapport au prix. C'est-à-dire, par exemple, l'immobilier de luxe. Si les gens s'enrichissent énormément dans une baisse des prix comme en Angleterre, ben, l'immobilier de luxe, il y en a très peu. Et donc ces prix vont monter énormément. Vous voyez, ils sont inélastiques par rapport au prix. Si vous achetez un très bel appartement, je ne sais pas, du côté de Palais Bourbon, ben, y a une offre limitée. Donc, s'il y a de plus en plus de riches, ils vont tous se précipiter pour habiter au même endroit. Et les prix, c'est très inélastique par rapport au prix et ça va beaucoup monter. Si vous avez des trucs qui sont élastiques par rapport au prix et où la demande n'est pas, ne suit pas, ben, vous allez vous retrouver en culotte courte, quoi. C'est comme ceux qui ont fait du charbon dans les années 50, quand le pétrole est arrivé. Ben, on a fermé toutes les mines, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'était bien triste, mais... Donc, c'est dans les périodes déflationnistes qu'il faut investir dans les grandes inventions. Parce qu'à ce moment-là, comme elles créent un nouveau produit, il y a une demande très forte en volume. Et donc, vous avez une baisse des prix, mais qui est compensée par une hausse en volume beaucoup plus forte. Et quelque part, c'est un peu là où on a vu ça avec l'Internet, le téléphone, etc. Mais, par exemple, acheter une voiture aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée, quand même.
Deux dernières questions, pour revenir un peu au domaine politique. Une question très intéressante sur la décadence de l'Europe. Est-ce que vous pensez que la démocratie va survivre au déclin de l'Occident?
Alors, le déclin de l'Occident, c'était une phrase de Spengler, ça, c'était là. Après, qui était un autre... décliniste, mais c'était au début du XXe siècle. Je crois que si on... Laissez-moi répondre de cette façon-là, si vous voulez. L'extraordinaire richesse de l'Europe depuis 10 siècles, allez, c'était son extraordinaire diversité. C'est-à-dire que, dans le fond, on était tous d'une civilisation, mettons, judéo-chrétienne, voilà. Mais en même temps, si vous voulez, les Italiens n'étaient pas comme les Allemands, qui n'étaient pas comme les Français. Ils avaient tous des spécificités. C'est cette spécificité qui était extraordinaire, qui permettait une compétition incroyable et qui a permis l'envol de l'Europe. C'était l'extraordinaire fragmentation de l'Europe a permis une concurrence débridée, ce que Schumpeter appelait une création destructrice incroyable. Et puis est arrivé au XVIIe, le mouvement libéral qui disait « Les États n'ont pas le droit de s'emparer de l'argent que vous avez gagné, tout le monde est égal devant la loi, y compris l'État. » Et la tolérance est nécessaire, c'est-à-dire que vous avez le droit de croire ce que vous voulez, personne n'a le droit de vous mettre en tôle ou de vous couper la tête parce que vous ne croyez pas en Jésus ou en Mahomet. Donc c'était à peu près les trois bases du libéralisme, qui reste mon libéralisme, c'est-à-dire surtout foutez-moi bien la paix, je veux que la loi soit égale pour moi et pour les autres, et puisque les autres font, quand ils sont chez eux ou n'importe où, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Vous voyez. La base du libéralisme, c'est l'individu responsable. Bon. Et ça a donné cette domination de l'Europe sur le monde entier. Et puis on s'est mis sur la gueule pendant deux ou trois guerres, c'était un peu couillon, mais enfin ça on l'a fait. Et donc il y a des gens qui ont dit, ces différences sont à l'origine de la guerre. Et donc il faut les tuer, donc il faut annihiler les nations, il faut retourner vers une espèce de truc où on sera tous pareils. Ben, j'ai pas le moindre doute que si ce mouvement qui a commencé avec M. Monnet dans les années 50 continue, l'Europe est foutue. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, on ne pourra jamais lutter ni contre la Chine, ni contre les États-Unis, ni contre les gros. Quoi. Ce que je veux dire, c'est l'Europe survivait comme les Grecs survivaient vis-à-vis des Perses. Vous mettiez 300 Spartiates et ils battaient une armée de 30 000 Perses parce qu'ils savaient où se battre. Ils se battaient jusqu'à la mort parce qu'ils défendaient leur liberté. Et bien, si on continue à pratiquer ce qu'un essayiste a appelé la mort du soldat, c'est-à-dire la mort de la nation, on est foutu. Il faut revenir au désordre créateur européen. J'ai besoin de Bruxelles comme d'un trou dans la tête. Ce que je dis aux gens, c'est que ce qu'il faut, c'est pas Frexit, c'est Bruxit. Il faut sortir Bruxelles de l'Europe. Et tout ça, ça a commencé avec Delors, avec tous ces corneaux. Et Giscard, d'ailleurs. C'est Giscard qui est à l'origine de tout ça. Donc, il faut redonner à l'Europe sa diversité.
Dernière question, qui est probablement celle qui a été posée le plus grand nombre de fois. Est-ce que vous pensez à vous présenter au présidentiel de 2022? Ou du moins, est-ce que vous pensez à faire sortir de l'ombre une personne ou soutenir quelqu'un de particulier?
Alors, il y a plein de gens qui me demandent de me présenter. J'en suis très honoré. Bon, enfin, soyons sérieux. Mais je sais pas. J'ai 77 balais, si vous voulez. J'ai besoin de me présenter encore une fois. Pff, 77 balais, mort. L'âge n'a aucune importance. Comme je dis toujours, place aux vieux, quoi. Parce que les jeunes, ils ont fait preuve de leur incompétence. Mais il est évident que aujourd'hui, le mode de désignation des élites que nous avons en France pour gouverner est déficient. Alors la question, avant de penser à soi-même, c'est pourquoi est-il déficient? Ben parce que dans un pays, vous avez trois niveaux, grosso modo. Le premier niveau, c'est ce que j'appellerais le peuple. C'est-à-dire vous, moi, on bosse, on essaye de faire des trucs, on se tire, on se pousse, et ça marche comme ça. Au-dessus, vous avez l'État. L'État qui est chargé du monde que j'appelle sans risque. C'est-à-dire que l'État, lui, fait des normes, des trucs, des machins, vous avez le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, mais ce que je veux dire, l'État, c'est le monde normé. Et tout en haut, vous avez le pouvoir politique qui, lui, doit arbitrer le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez ceux qui sont capables de traiter le risque, ceux qui sont capables de vivre dans un monde sans risque, et puis le peuple qui, lui, essaye de se peuple dépatouiller du mieux qu'il peut et qui compte que les deux au-dessus vont faire leur boulot. Mais ce qui s'est passé avec Giscard, justement, c'est que le monde administratif qui ne supporte pas le risque a pris le contrôle du monde politique. Et donc, depuis 40 ans, nous avons nommé des gens qui n'ont qu'une obsession, c'est de gouverner selon des normes, des règles, des règlements, des trucs, des machins. Et du coup, ils empêchent le peuple de vivre. Mais c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'être en quelque sorte des paratonnerres à foudre, à risque. Le rôle, si vous voulez, c'est d'être Jeanne d'Arc, vous voyez, d'aller prendre l'assaut d'Orléans avec. Et donc, le vrai problème, c'est qu'on a fait monter toute notre structure politique est faite par des gars qui n'ont jamais pris un risque dans leur vie, qui sont tous par définition des bons élèves. Ce que j'appelle des agnans, vous savez, pour ceux qui connaissent le petit Nicolas. Donc aujourd'hui, je crois que notre système politique a été créé pour des gens qui ne veulent pas prendre de risques mais qui veulent empêcher ceux qui sont capables de prendre des risques d'arriver en haut. Ils ont un double but. C'est rester et empêcher les autres de les supplanter. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France que ça arrive. Ça est arrivé fréquemment. Et à ce moment-là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en général, vous avez une révolution. Il faut aller à un moment ou un autre où il faut aller écarter le SEGA, place de grève, quoi, ce qui leur ferait le plus grand bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que les gens pensent à un homme. Il faut qu'ils pensent à la structure du pouvoir. Il faut qu'ils choisissent un gars qui sera capable d'être le paratonnerre à risque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis comme Diogène, je me balade avec une lampe à la main en disant « je cherche un homme, je cherche un homme ». Il y en a un ou deux qui ont l'air à peu près présentables et tout, qu'un jour je me déciderai peut-être à les recommander. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut sortir de « on va trouver un gars bien », tout, on va trouver un gars qui va nous proposer un changement du système de sélection des élites. Par exemple, dans la quasi-totalité des grandes démocraties, le fonctionnaire est interdit d'élection. Il ne peut pas être élu. Ou s'il est élu, il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Donc il prend un risque, s'il est battu la fois d'après. Donc ce qu'il faut, c'est tant qu'on aura un système qui est fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires, on continuera à s'enfoncer. C'est pas l'homme qui compte. Je cherche pas à être vizir à la place du vizir, vous savez, je suis pas... Comment ça s'appelait ? He's no good. Ce que je dis, c'est qu'on a un problème de structure. Il faut qu'il y ait un homme qui arrive avec une réflexion sur la façon dont on va changer la structure pour arriver à avoir les trois étapes nécessaires, c'est-à-dire le preneur de risque, celui qui fait marcher la machine, le mécanicien, et le peuple à qui on fout bien la paix. Mais c'est pas un homme qui changera. La constitution de la cinquième est une saloperie. C'est la constitution de la cinquième qu'il faut reprendre à zéro.